France Inter.
Nous en avons eu la confirmation il y a quelques minutes seulement. Karl Lagerfeld vient de mourir, lui qui avait été nommé directeur artistique de Chanel en 1983. Lagerfeld, une silhouette, le catogan, un accent bien particulier, une immense culture derrière une apparence de légèreté, un personnage et bien sûr un créateur avant tout. Ce processus de création, il l'expliquait il y a quelques années sur France Inter à Guillaume Herner.
J'ai une chose très prétentieuse, je dessine très bien, dans la mesure que c'est comme des fiches techniques où il y a l'allure, mais aussi tous les détails techniques avec les pinces et tout, avec toute la coupe et tout, et des annotations autour. Je suis quand même très professionnel. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce métier qui ont ce pouvoir de pouvoir mettre avec autant de détails un truc sur un bout de papier qu'on a presque plus besoin de me poser une question. Parce que les autres, ils font des trucs au chic et puis ça drapouille. Moi, je drapouille pas. Moi, c'est très conceptuel.
Mais oui, il ne drapouillait pas. Karl Lagerfeld, il y a tout juste 10 ans, lui, qui vient de nous quitter à l'âge de 85 ans. Sa vie, son destin, retracé par Isabelle Pasquier.
Karl Lagerfeld, c'est un look de dandy rock, décalé, son masque, lunettes fumées, cheveux blancs, catogan, pantalon et mitaine en cuir noir.
Parce que ça me va, parce que c'est impeccable, parce que j'ai horreur de laisser aller et que finalement, ça s'est gravé dans la tête des gens. Résultat, je ne peux pas traverser la rue. C'est une horreur avec les selfies et tout.
Et c'est lui, Karl Lagerfeld, qui dépoussière et relance Chanel. Il détourne les codes de la griffe. Avec lui, l'iconique tailleur raccourci, il ose des franges décousues et il peut se porter avec des baskets montantes et un sac à main en plexiglas. Lagerfeld est un dessinateur acharné qui boude le numérique.
J'ai fait des dessins extrêmement précis, presque en trois dimensions. Quand je vois le premier essayage de la toile ou du modèle, ben ça ressemble à mon dessin exact. Si c'est pas bien, c'est que c'est ma faute.
Pour ses défilés, Karl Lagerfeld transforme le Grand Palais en forêt, en plage, en paquebot géant et pour son ultime collection, en jardin italien, avec des femmes très 18e, en chevelure style Pompadour. Mais la muse de ses muses, c'est Choupette, son chat aux yeux bleus, qui selon son papa Karl, préfère les jets privés. Côté look, la star de la mode n'avait peur de rien. Pour une pub pour la sécurité routière, il a osé un gilet jaune avec ce commentaire « C'est jaune, c'est moche, mais ça peut vous sauver la vie ». Et c'était bien avant la crise des gilets jaunes.
En direct avec nous, Olivier Saillard. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ancien patron du musée Galliera, l'un des temples de la mode à Paris. Que retenez-vous de la vie de Karl Lagerfeld ?
C'est d'abord une force de travail, pour pas dire un bourreau de travail, lié à une immense culture. C'était à la fois le grand couturier qu'on connaît, qui a œuvré des dizaines d'années durant pour Chloé, pour Fendi, pour Chanel. C'est donc un parcours de vie assez exemplaire dans la richesse.
Derrière la légèreté apparente, et c'est frappant là, déjà dans les sons qu'on vient d'entendre, il y avait un sérieux et beaucoup de travail.
Ben, c'est vraiment un gros travail. Je me souviens que Karl Lagerfeld, en entretien, m'avait dit un jour, vous savez, trouver l'inspiration, c'est pas ouvrir la fenêtre et attendre que l'air du temps arrive. Il faut se mettre avec ses crayons et son papier et se mettre à travailler. Et c'est vrai, c'est sûr, l'inspiration ne vient pas comme ça. Et le travail, je pense que pour lui, c'était vraiment une forme de recherche constante.
Sur la mode, qu'a-t-il apporté ? Vous avez cité Fendi, Chanel, bien sûr, l'apport de Karl Lagerfeld dans la mode, quel a-t-il été ?
Je crois que son apport est très générique, que c'est un créateur très particulier qui a abordé son métier comme un grand directeur artistique. D'abord, le nom est arrivé avec lui. Avec Karl Lagerfeld, être créateur, ça, c'est devenu s'occuper de l'image, créer les vêtements bien sûr, et il le savait, mais aussi regarder de manière beaucoup plus panoramique tout ce qu'un nom, une griffe peut dire.
Et sur les vêtements, proprement parlé, on retient bien voilà ce côté généraliste de la mode qui a conscience que c'est un business également. Sur les vêtements, c'est quoi ? On l'entendait là dire « pas de laisser aller », c'est ça la ligne Lagerfeld ?
Oui, il y a une espèce d'ossature dans l'œuvre de Lagerfeld, il y a « pas de laisser aller », même si parfois, si on parle de Chanel, il est allé à la rencontre de Chanel, mais aussi parfois contre Chanel, mais tout cela était une entreprise de dynamisation. Je pense que Lagerfeld était un très bon historien de la mode et se permettait d'aller avec ou contre.
Pourquoi s'est-il créé, au fond, ce personnage de votre point de vue ?
C'est un personnage très warholien. Il est né, on dirait publiquement, dans ces années-là, 70. C'est quelqu'un qui avait une très grande connaissance médiatique du système et qui en plus avait la culture. Donc je pense que tout cela n'était pas du tout innocent ni spontané. Tout cela était très réfléchi. Puis c'est quelqu'un qui aimait donner. Il faut aimer un peu donner de soi pour aussi faire marcher la machine.
Olivier Saillard, ce sera ma dernière question. Vous qui savez par cœur comment on organise des expositions dans le domaine de la mode, une expo Lagerfeld, il y aurait quoi, les 3-4 pièces essentielles?
Ah, il y a une très très belle collection, moi, que j'aime beaucoup, ce qui est un hommage à Mademoiselle Chanel, et c'est la grande connaissance de Lagerfeld du métier de la haute couture. Ce sont des manteaux Coromandel, ce sont des robes en tulle très fines, et puis bien sûr un tailleur Chanel, puisque ça a été son cadre de route pendant ces 30 dernières années.
Merci beaucoup d'avoir spontanément et au débeauté comme ça répondu à toutes nos questions, Olivier Saillard. Évidemment, sur franceinter.fr et sur l'antenne de France Inter, on vous prépare des émissions et des rediffusions des émissions avec Karl Lagerfeld. Alors le personnage, terminons avec cela, il en parlait lui-même à Guillaume Erner à nouveau, de ce personnage qu'il s'est créé.
Donc regardez-moi, qu'est-ce que j'ai, une veste noire, une chemise avec un col blanc, une cravate noire, et bon, les cheveux blancs, ça arrive à tout le monde, ça veut dire, c'est bon.
Pourquoi les lunettes noires par exemple?
Parce que j'aime pas trop les projecteurs qu'on a dans la figure. Par exemple, chez vous, avec la petite caméra, là, on est éclairé à fond, ça ne me gêne pas, mais c'est plus agréable comme ça. Et puis, ça donne un mystère dans la mesure que moi, je peux observer sans être trop observé. Les états d'âme qui s'expriment par les yeux, c'est pas un truc que j'ai envie de sur le marché.
Karl Lagerfeld sur France Inter, et allez sur franceinter.fr très vite, vous aurez des informations, des photos, des rappels sur la vie de ce couturier qui vient de nous quitter à l'âge de 85 ans.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Alors qu'à travers la France, des rassemblements se préparent pour dire « ça suffit l'antisémitisme ». Cette information tombée en milieu de matinée, 80 tombes du cimetière juif de Quatzenheim, nord-ouest de Strasbourg, ont été profanées. Découverte faite ce matin, annonce de la préfecture du Bas-Rhin. Bonjour Lucille Guillotin.
Bonjour.
Lucille, que peut-on dire de cette découverte à 13h08?
C'est un promeneur qui a découvert ce matin, vers 6h30, les croix gammées dans le cimetière juif de Quatzenheim. Au moins 80 stèles recouvertes de croix gammées, jaunes et bleues. Des inscriptions également en alsacien ou en allemand sur deux sépultures signées du groupe autonomiste alsacien, les Loups Noirs, auteurs d'attaques virulentes dans les années 70. Les gendarmes ont bouclé le périmètre. Ils sont toujours sur place pour faire les constatations. Dans une heure, Emmanuel Macron et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, arriveront à Quatzenheim. C'est la première fois que le cimetière juif est profané dans cette commune située à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. L'adjointe au maire que j'ai rencontrée est choquée, en colère. Elle ne comprend pas. Comme tous les habitants ici, les différentes communautés vivent très bien ensemble. Et il sera difficile de penser les plaies après un tel acte. À Quatzenheim, Lucille Guillotin, France Bleu Alsace pour France Inter.
Donc Emmanuel Macron attendu en Alsace. Il s'est déjà exprimé sur la résurgence d'actes antisémites ce matin pour faire une annonce en particulier.
Je serai tout à l'heure à 18h15 au mémorial de la Shoah avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, pour rappeler la morsure dans notre histoire et pour dire ce qu'est la République, un bloc face à tout cela. Ensuite, à l'appel des partis politiques, ces derniers se rejoindront place de la République et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que la place du président de la République avec le président de l'Assemblée et du Sénat est dans un moment institutionnel, solennel. Il faut ensuite que les mouvements politiques vivent ce qu'ils ont décidé de convoquer ensemble et c'est une bonne chose. Mais je veux ici redire qu'à chaque fois qu'un Français, parce qu'il est juif, est insulté, menacé ou pire, blessé ou tué, c'est la République tout entière qu'il est. Je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme soit une bonne solution. Mais je confirme que ceux qui aujourd'hui, dans le discours, veulent la disparition d'Israël sont ceux qui veulent s'attaquer aux juifs. Je pense néanmoins que lorsqu'on rentre dans le détail, la condamnation pénale de l'antisionisme pose d'autres problèmes.
Le président de la République, donc au mémorial de la Shoah ce soir à 18h15 et avant cela en Alsace où 80 tombes ont été profanées dans un cimetière. Et puis ce soir, les rassemblements à travers la France, à Paris, ce sera sur la très symbolique place de la République à 19h. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Avec vous, portrait d'une dame qui ira à ce rassemblement parisien. Elle s'appelle Frédérique, elle a 65 ans, c'est une ancienne institutrice, elle habite dans les Yvelines en région parisienne.
De culture juive mais non pratiquante, elle ne s'est pas posé longtemps la question d'aller ou non au rassemblement de ce soir. Moi, j'y vais y aller avec mes amis, juifs, non-juifs, à moitié juifs ou pas, religieux ou pas religieux. Et je pense que individuellement, c'est important que les gens se déplacent quoi, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe.
Frédéric a été ébranlé par ces croix gammées taguées sur le visage de Simone Veil, un dessin de Simone Veil, le mot « Youden » aussi inscrit sur la vitrine d'un magasin.
Ça fait tellement penser à ce qui s'est passé dans l'histoire, alors que maintenant on sait comment ça s'est terminé. C'est vrai que j'ai un grand-père qui est mort à Auschwitz, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur de ne pas accepter l'inacceptable.
Pour la sexagénaire dont le père a longtemps caché sa religion pour protéger ses enfants, c'est la présence citoyenne qui comptera ce soir, mais les partis politiques doivent être présents car c'est la République qu'on attaque.
Dans plusieurs pays d'Europe, ça ressurgit aussi, donc c'est ça qui est encore inquiétant, parce que c'est même au niveau européen. Là, pour l'instant, on a une République qui tient le coup, mais bon, c'est vrai que ça peut faire peur.
Et au-delà de la mobilisation de ce soir, il faut travailler sur l'éducation, exhorte l'ancienne institutrice, avec un enseignement de l'histoire des religions à l'école pour que chacun se connaisse mieux.
Et oui, les politiques présents ce soir, il y aura le Premier ministre Édouard Philippe, deux anciens présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez pour les Républicains, Olivier Faure pour le Parti Socialiste, entre autres. Ce rassemblement 19h, place de la République à Paris, mais aussi dans toutes les villes de France. Un tout petit mot pour revenir sur cette information que nous vous donnions au début de ce journal, la mort de Karl Lagerfeld, la réaction de Bernard Arnault, qui se dit infiniment attristé et rend hommage à son ami très cher, Karl Lagerfeld. Comment les nouvelles technologies s'infiltrent dans notre vie quotidienne? Une étape de plus est franchie. À l'occasion du carnaval, la ville de Nice teste aujourd'hui et demain un système de reconnaissance faciale sur la voie publique. La Commission nationale informatique et liberté donne son accord. Le principe, c'est qu'on utilise les images de vidéosurveillance, on les passe au crible d'un logiciel. Et le test, au fond, c'est de voir si cela peut permettre de retrouver un enfant ou une personne âgée perdue dans la foule, ou encore, évidemment, une personne recherchée. Gabriel Pereira.
Ce logiciel de reconnaissance faciale va s'appuyer sur les caméras de vidéosurveillance de la ville. À Nice, il y en a 2350, soit une pour 145 habitants. Et pour le maire Christian Estrosi, il faut s'en servir pour améliorer la sécurité sur des événements comme le carnaval.
Ça fait 3 ans que nous essayons d'obtenir l'autorisation de la CNIL, ne serait-ce que pour une expérimentation. Donc ça y est, nous disposons de ce feu vert de la CNIL pour expérimenter un système de reconnaissance faciale permettant d'identifier des personnes d'intérêt et présentant un danger sur un événement de cette nature.
Expérimentation très encadrée par la CNIL. Pour l'instant, ce sont 6 caméras dans un secteur bien délimité qui vont être directement reliées au logiciel et ce sont des volontaires, 1000 au total, qui ont accepté de jouer le rôle de cobayes. Le logiciel devra les repérer en temps réel dans la foule sur la base de photos transmises par les bénévoles. Et d'après les concepteurs de cette technologie, il est possible de reconnaître quelqu'un même si la photo date d'il y a 30 temps et même si la personne est de profil, un rapport sera remis à la CNIL d'ici 2 mois à l'issue de cette expérimentation.
À 13h15 sur France Inter, nous en venons à la chronique santé comme chaque mardi dans ce journal de 13h. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Question clé, comment lutter contre les ruptures de stock de médicaments? Le LEM, qui représente les industries du médicament, présentait son plan d'action ce matin. Alors d'abord, il faut dresser un constat Daniel, hein, que des médicaments soient en rupture, c'est un phénomène de plus en plus fréquent.
Oui, le nombre de signalements à l'agence du médicament de rupture ou risque de rupture de médicaments est passé de 400 par an entre 2014 et 2016 à 538 en 2017 et c'est un problème mondial. Le trio de tête des médicaments touchés, c'est d'abord 1. Les anti-infectieux, vaccins, antiviraux, 2. Les médicaments du système nerveux contre Parkinson, l'épilepsie, 3. Les anticancéreux. Alors quelles sont d'abord les causes principales de ces ruptures? Thomas Borel est le directeur scientifique du LEM.
Une des causes majeures de ces ruptures, c'est la différence, si vous voulez, entre la production et la demande qui existe sur le plan international. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez un grand pays comme la Chine qui met en place un plan santé et qui décide de mettre à disposition un certain nombre de médicaments et de vaccins et d'avoir une politique vaccinale beaucoup plus volontariste, donc vous avez effectivement cette tension sur les chaînes de production qui est une tension continue. Les entreprises du médicament qui produisent du vaccin n'ont pas la possibilité dans les semaines et mois qui suivre, d'augmenter les productions de vaccins autant que souhaité. Ça rend les choses parfois compliquées.
L'autre grande cause, c'est aussi le défaut de production. La chaîne de fabrication des médicaments, vous le savez, c'est très sécurisé, donc elle doit s'arrêter si l'on détecte le moindre défaut.
Alors, dans le plan d'action présenté ce matin, il s'agit d'abord de centrer les efforts sur un nombre limité de médicaments, ceux qu'on appelle les médicaments d'intérêt essentiel. On retrouve Thomas Borel.
Il s'agit des médicaments pour lesquels le pronostic vital est engagé lorsqu'il n'est pas disponible ou pour lesquels aucune alternative thérapeutique ne pourrait exister par ailleurs. L'objectif, si vous voulez, c'est que de façon systématique pour ces médicaments essentiels, encore une fois avec un nombre limité de médicaments, puissent être constitués en amont et par précaution des stocks de sécurité qui soient disponibles en cas de tension et pas lorsque la rupture existe. Par exemple, évidemment dans le champ du vaccin, évidemment dans le champ des anticancéreux, même si tous les anticancéreux sont importants pour la prise en charge des patients, lorsqu'on fait l'exercice, on peut réduire à une trentaine ou une quarantaine de molécules les médicaments indispensables pour lesquels le patient se retrouverait en situation absolument dramatique si le médicament n'était pas disponible.
Et puis Daniel Messager se pose la question de la fabrication de ces médicaments.
Oui, aujourd'hui, la délocalisation de la fabrication des principes actifs est maximale. Écoutez bien, 80% sont produits en Asie du Sud-Est, Inde, Chine, rendant l'Europe évidemment très vulnérable. Alors peut-être faudrait-il penser à relocaliser certains sites pour se protéger de ces ruptures de stock de médicaments.
Merci Daniel Messager. La chronique santé chaque mardi dans ce journal de 13h. Autre question à présent, comment lutter contre le changement climatique? Comment financer la lutte contre le changement climatique? L'invité de ce journal est économiste et boîte à idées, ai-je envie de dire. Bonjour Pierre Laroutirou.
Bonjour.
Avec entre autres le climatologue Jean Jouzel, vous présentez ce soir votre dernière idée, une banque pour le climat. Expliquez-nous.
Mais on dit que dans tous nos pays, on n'arrive pas à financer la lutte contre le dérèglement climatique. Quand Nicolas Hulot démissionne, il dit « je voulais 7 milliards pour isoler les maisons, je voulais faire un plan hydrogène, il n'y a pas d'argent ». Et en fait, ce qu'on montre de façon très simple, c'est qu'il n'y a jamais eu tant d'argent disponible. La Banque Centrale Européenne a créé 2600 milliards d'euros en moins de 3 ans. Je répète, 2600 milliards, c'est quand même colossal pour relancer la croissance, et elle a donné cet argent aux banques. Et on fait le bilan, il y a seulement 11% d'argent qui est allé dans l'économie réelle, et l'essentiel, presque 90%, va à la spéculation. Et le FMI nous dit régulièrement, Christine Lagarde nous dit qu'on va vers une crise financière qui peut être plus grave que 2008. Donc est-ce qu'on est comme des lapins qui voient le camion arriver, on va se prendre et la crise financière et le chaos climatique, ou est-ce qu'on est capable de réagir? Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne s'agit pas de faire plus d'argent, mais que cet argent soit redirigé, que l'argent de la Banque Centrale soit redirigé vers des créations d'emplois sur tous nos territoires.
Alors comment fait-on, Pierre Laroutirou, pour au fond flécher ces énormes sommes d'argent vers des actions pour le climat?
Eh bien, on crée une banque du climat, ça peut être fait en moins d'un an. On a maintenant des gens qui sont dirigeants de la Banque Européenne d'Investissement qui disent oui, c'est possible en moins d'un an. Souvenez-vous, quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de quelques mois pour que François Mitterrand et Helmut Kohl se disent qu'il fallait aider la Pologne, c'était la transition de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, exactement. En moins d'un an, en partant de rien, on a créé cet outil pour financer.
Alors, on crée l'outil, mais comment l'argent? Comment convainc-on la Banque Centrale Européenne?
Il faut que les citoyens poussent les chefs d'État. Il faut que Mme Merkel, que M. Macron, M. Rutte, que en Belgique, il y a des manifestations magnifiques. Et du coup, après-demain, le Parlement fédéral commence à examiner un texte pour demander au Premier ministre belge. Et en Belgique, c'est parti. Il demande officiellement au Premier ministre belge de reprendre ce projet et de le mettre sur la table des négociations européenne, et on espère qu'en France, il y aura de plus en plus de citoyens qui vont nous aider à pousser M. Macron et Mme Merkel à l'audace. Et le but, c'est qu'il y ait un traité européen qui dise, on crée une banque du climat, on crée une petite fiscalité sur les dividendes, au lieu d'avoir des gilets jaunes partout parce qu'on va demander un effort à tous les citoyens. On peut comprendre que les gens en aient marre de payer quand il y a 30% des citoyens qui sont dans le rouge tous les mois. Ouais. Donc en fait, on propose deux outils. Une banque du climat qui est financée avec tout schématiquement l'argent de la BCE, même si on ne touche pas techniquement à la Banque Centrale. Et puis, un vrai budget climat. Si chacun de nous doit isoler la maison où il habite, vous, dans votre vie personnelle, on ne va pas laisser chacun payer la totalité de la facture. Le but, c'est que l'Europe puisse dire, je paye la moitié de la facture si dans votre vie personnelle, si dans votre entreprise, si dans votre ferme ou dans votre PME, vous devez faire des travaux d'isolation. Le but, c'est qu'il y ait des gens compétents pour faire le boulot et que la moitié de la facture soit payée par la collectivité. Et pour ça, il faut un budget. De même qu'il faut un budget pour un vrai plan Marshall pour l'Afrique, qu'il faut un budget de recherche. On a mis des milliards pour faire Ariane, on a mis des milliards pour faire Airbus.
On peut mettre des milliards pour le climat.
On peut mettre des milliards pour inventer une voiture qui consommera beaucoup moins.
Et en même temps, Pierre Laroutirou, vous parlez des gilets jaunes. À l'origine de la crise des gilets jaunes, il y a la taxe carburant qui était destinée à financer des mesures écologiques. Et au fond, les gens, à un moment, se sont dit, tant pis, on n'en veut pas, c'est trop cher.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas dit tant pis, on n'en veut pas. Par exemple, ce soir, l'événement qu'on fait à Paris, il y a les maires ruraux, ouais. Ils disent, est-ce que c'est qui doit payer ? C'est un problème. Comment est-ce qu'on arrive à avoir en même temps une plus grande justice sociale, une plus grande justice fiscale ? Moi, je comprends que des gens, l'autre jour, j'étais avec les maires ruraux de l'Ain, tous ceux qui ont, il y en a plein qui sont au chômage dans leur coin, mais ceux qui ont du boulot doivent prendre la voiture pour aller, font 30 km tous les matins pour aller à Lyon. Donc, si on n'a pas d'abord mis en place des transports en commun ou des espaces pour travailler à distance, les gens se sentent piégés. Et la plupart des gens n'ont pas un euro d'économie à la fin du mois. Donc, par contre, ils sont totalement favorables à ce pacte finance-climat qui va d'abord, au lieu de commencer par le bâton, on commence par financer des transports en commun, on commence par isoler les maisons, et comme ça, si le prix des carburants augmente, ce sera beaucoup plus facilement acceptable.
Ils sont partants si on fait les choses intelligemment. Alors, les solutions sont là. Finance, climat, réveillez-vous. C'est un livre que vous coécrivez avec Anne Hessel et Jean Jouzel. Et ce soir, la présentation de vos idées, c'est tout ?
On est à Jussieu, à 19h, c'est déjà archi plein. Et puis, vous pouvez aller sur le site pacteclimat.eu pour nous aider à obliger les dirigeants à bouger.
Et ce soir, il y aura notamment Laurent Fabius et Alain Juppé. Hein,
et aussi le patron des syndicats européens. On a en même temps des patrons, des syndicalistes, des gens de droite, des cathos, des francs-maçons. On rassemble des jeunes et des vieux. Non, mais c'est étonnant comment la question du climat peut rassembler.
Merci Pierre Larouturou d'être venu dans les studios France Inter.
Merci.
Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Bruno.
L'actualité politique, c'est Bernard Cazeneuve qui était ce matin l'invité de France Inter, l'ancien Premier ministre, l'une des rares voix qui compte au sein de la gauche modérée. Aujourd'hui, il se fait rare. Il est donc sorti ce matin de son silence parce que le moment est grave. Il voulait parler de cette résurgence des actes antisémites, mais il a aussi un regard assez sévère sur la politique d'Emmanuel Macron.
Oui, et lui aussi sera sur la photo ce soir à République. Le socialiste, mais d'abord le républicain, le ministre qui a affronté les attentats de l'intérieur à l'intérieur. L'homme d'État, sans aucun mandat électif aujourd'hui, avocat dans un grand cabinet parisien, retiré provisoirement. Il cultive ses amitiés, ses réseaux. Invité la semaine dernière au Sénat à dîner avec 50 parlementaires PS, il leur a dit qu'il fallait relever l'espérance à gauche parce qu'Emmanuel Macron, dit Cazeneuve sur Inter, c'est la droite.
Je cherche ce qui, dans cette politique, la place à gauche. Est-ce que c'est la loi anti-casseurs dont nous avons parlé ? Est-ce que le fait de faire 6 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches des Français est une politique de gauche ? Je pourrais comme ça multiplier les sujets. Si je qualifie cette politique de droite, c'est parce que je cherche dans ce qui est fait, ce qui pourrait éventuellement lui donner une teinture de gauche.
Son credo, la social-démocratie a encore toute sa place dans le paysage.
Dès lors que le gouvernement est de droite et qu'il y a un pôle assez significatif d'extrême droite qui se constitue et qu'il y a à l'extrême gauche une organisation qui stérilise tout, je me dis qu'il serait quand même pas mauvais pour la démocratie qu'il y ait une force de gauche qui se constitue.
Et pourquoi vous ne l'apportez pas, cette voix-là ?
Je suis devant vous aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être devenu totalement à faune.
Non, il parle, Aléa Salamé, il reparle Bernard Cazeneuve, mais il choisit ses moments, piqûre de rappel, avant une nouvelle cure de silence, quelques conférences, Harvard et l'écriture de son prochain livre sur ses 1000 jours à Beauvau. Cazeneuve en réserve de la gauche, il laisse passer les européennes, la guerre des hiérarques. Soit une offre renouvelée, rajeunie se dessine et là il la soutiendra, soit c'est le chaos persistant et il fera son devoir, laisser ouverte la porte de 2022. Mais pour cela, il faudra peut-être tuer le père ou le frère François Hollande. Le PS vient de faire son inventaire. Par loyauté, Bernard Cazeneuve, lui, s'y refuse toujours.
Merci Yael Gauze. Officiellement, il n'y a pas de lien avec le Brexit. On a un peu de mal à le croire. Le constructeur automobile japonais Honda annonce son intention de fermer son usine de Swindon, Royaume-Uni. Il y a 3500 emplois à la clé. Cela fait presque 10 ans que Lyon n'a pas accédé au quart de finale de la Ligue des champions de football et jamais le club n'a battu l'ogre Barcelone en Coupe d'Europe. C'est dire l'ampleur du défi qui attend Lyon ce soir à 21h. Lyon-Barcelone, l'autre match de la soirée en Ligue des champions, ce sera Liverpool-Bayern-Munich. Sacré programme. Allez, revenons sur l'information que nous vous donnions au tout début de ce journal, la mort de Karl Lagerfeld à 85 ans et les premières réactions, celle de Stéphane Bern qui salue un homme généreux et fidèle. Karl Lagerfeld, l'ancien directeur artistique de Chanel. Était-il un artiste, lui qui avait justement ce titre de directeur artistique ? Il répond en 2012 sur France Inter sur ce thème à François Bunel.
Moi, j'ai fait des robes, j'ai fait des photos, j'ai fait des livres, et je ne donne pas de label à ce que je fais. C'est aux autres de trouver ou de pas trouver, mais je trouve ça extrêmement prétentieux de se dire, moi, je suis artiste, moi. Vous savez, on a tendance à s'appeler vite artiste pour pas grand-chose.
Karl Lagerfeld, qui vient de nous quitter à l'âge de 85 ans, la France et Paris lui doivent tant, dit le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Karl Lagerfeld, voilà, la chose la plus importante à savoir en ce qui me concerne, c'est tout ce que disent les autres n'est pas nécessairement la vérité. C'est la citation de Karl Lagerfeld qu'utilise Benjamin Griveaux pour lui rendre hommage.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toute naturelle. cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Un après-midi souvent nuageux avec une perturbation faisant du surplace, hein, des Charentes au centre et de la Bourgogne à la région Grand Est. Les pluies associées seront dans tous les cas de faible intensité. À l'arrière des Pays de Loire à l'Île-de-France, prévoyez un ciel nuageux. On attendra les éclaircies avant la fin de la journée. Des éclaircies déjà bien présentes en Bretagne et le long des côtes de la Manche, mais aussi du côté du nord de la Picardie, gagnant la région Champagne-Ardenne. Dans le sud-ouest, le ciel sera variable. En revanche, l'ensoleillement sera généreux au-dessus de tous les massifs montagneux, à exception du massif vosgien. Côté température, les maximales sont en sensible baisse, mais les valeurs attendues resteront au-dessus des moyennes de saison. Comptez 10 à 14 dans la moitié nord et 14 à 17 degrés dans la moitié sud. Demain, l'anticyclone va reprendre une bonne place. Prévoyez beaucoup de grisailles ou de bancs de brouillard en matinée, avant le retour du soleil parfois tardif, et en particulier dans l'ouest, mais aussi du côté de la plaine de Saône.